بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 15 minutes إن شاء الله بين المغرب والعشاء، entre le Maghrib et l'Isha, pour permettre à chacun de revenir, de se restaurer, de revenir à la Salat al-Isha. Mais 15 minutes que nous consacrons, Inch'Allah, à l'étude de la biographie de notre prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce livre, Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était les religions présentes dans la péninsule arabe avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'auteur Mubarak Fawri, comme Ibn Hisham ou d'autres auteurs de Sirat, ils ont l'habitude, avant de démarrer la biographie du prophète alayhi salat wa salam, de parler du contexte. Quelle était la situation géographique, économique, comment était la société, comment étaient organisées les religions, quels étaient les cultes présents dans la péninsule arabe avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'on ait une vision globale de la Ummah à cette époque, d'où ils viennent, quelle était leur situation et quel va être le changement, quels seront les changements qui vont être opérés au fur et à mesure que les versets sont révélés et que ces gens qui vivaient ce qu'on appelle de le jahiliya, de l'époque de l'ignorance, je pense que c'est des choses que nous avons tous appris à la madrasa, comment étaient les Arabes avant l'islam, plein de choses horribles, hein, c'est vraiment l'adjectif. Comment ces personnes vont devenir khayrun nas, khayrul quruni qarni, la meilleure des générations. Jamais il y a eu des êtres humains, des insans sur ce dunya qui avaient autant de qualités que les sahaba, bien sûr après les anbiya alayhi salat wa salam. Mais nous très souvent quand j'étudie la vie de Abu Bakr, quoique Abu Bakr c'est une exception, c'est quelqu'un qui a toujours été parfait, même avant l'islam. Quand j'étudie la vie de Omar, de Uthman, de Ali, de l'ensemble des sahaba, je retiens leur qualité, leur générosité, leur piété, les salats qu'ils accomplissaient. Mais ce qui est intéressant également, c'est de savoir mais comment est-ce qu'ils étaient avant, afin qu'on comprenne que la hidayah, elle est dans les mains d'Allah. Afin que je réalise que si moi, ma situation spirituelle maintenant, elle n'est pas top, ben, ça ne me condamne pas. Ça veut dire que j'ai toujours espoir en Allah, que même s'il y a des manquements en moi, Allah est capable de m'élever, de m'accorder un haut rang spirituel. Et également, ça me permet de rectifier le regard que j'ai sur mon prochain. Des fois, moi, une personne qui ne vient pas à la salah, qui est éloignée de la religion, et na'oudou billah, on se permet de le regarder de haut. Je dis, ouais, ça c'est quelqu'un qui hein, c'est fini, il est perdu. Là, ne dis jamais ça. Les sahaba étaient perdus. Les Arabes avant l'islam, c'était terrible, on va voir. Et Allah leur a accordé la hidayah, ils sont devenus ce que nous savons, radiyallahu anhum wa radou anhum. Donc, ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, c'était que les Arabes s'accrochaient à l'héritage de quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Mais une religion qu'ils avaient largement falsifiée, interprétée à leur façon. On avait vu comment ils faisaient le Hajj, comment ils ne donnaient aucune importance, par exemple, à Arafat et ainsi de suite. Bref, on avait vu ces exemples la dernière fois. On avait vu que dans la péninsule arabe, il y avait également des gens du livre, des Yahoud et des Nasara, mais la présence la plus importante, c'était les Arabes qui étaient polythéistes. Et on avait vu, chose intéressante, comment est-ce que l'adoration d'idoles est entrée dans la péninsule arabe. C'est au cours d'un voyage en Syrie, d'une personne qui était considérée comme quelqu'un de pieux, quelqu'un d'admirable dans la société. Et il a été en Syrie, il a vu des peuples qui adoraient des idoles, il a trouvé l'idée bonne, il l'a importée et les gens lui faisaient confiance, les yeux fermés, parce que c'est quelqu'un qui était aimé de tous et les Arabes sont tombés dans le piège de Shaitan. Donc voilà la situation, on va dire, religieuse avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment était cette société Très souvent, quand on parle des Arabes avant l'islam, c'est ce que j'ai dit en introduction, on pense souvent à des barbares, des gens qui n'avaient aucune règle, aucun savoir-vivre, et ainsi de suite, mais ce n'était pas le cas. Il y avait le mauvais côté, mais il y avait également des choses exceptionnelles en eux. Ce n'est pas pour rien si Allah Azza wa Jal décide d'envoyer le meilleur des hommes parmi les Banu Hashim chez les Quraysh. Parce qu'Allah Azza wa Jal savait, min fawqi sab'i samawat, Allah savait qu'il y avait dans le cœur de ces personnes, de ces Arabes, qui à cet instant T, étaient dans l'égarement, il y avait en eux des qualités exceptionnelles qui fait que lorsqu'ils vont recevoir la lumière du Coran, ça va les transformer et ils vont devenir les meilleurs des hommes. Naam, hada. Premier point, et c'est souvent extrêmement révélateur, la condition de la femme chez les Arabes. On en est à 5 minutes, il nous reste 10 minutes, Inch'Allah. La condition de la femme dans n'importe quelle civilisation, il suffit, il y a deux éléments clés, l'éducation et la position de la femme. C'est là, ça nous donne une idée un peu de la mentalité et de ces gens. Alors, les Arabes avaient, Wallah Musta'an, une idée, une approche extrêmement réductrice de la condition féminine. On parle de ta'addud az-zawjat, par exemple, la polygamie chez les Arabes, c'était quelque chose qui était limité. Un homme pouvait avoir 10, 15, 20, 30 épouses. Un homme pouvait donner divorce 10, 15, 20 fois, les reprendre. C'est-à-dire que la femme chez les Arabes était un objet. Elle n'avait aucun statut. Elle n'avait aucun droit. Elle n'avait aucune valeur. Ne parlez même pas de l'héritage, et ainsi de suite. Et ça, c'est important. Des fois qu'on entend des discours de bons penseurs concernant l'héritage en islam, disent que oui, l'islam favorise l'homme. Mais il faut resituer dans le contexte. C'est à une époque où la femme n'avait pas droit à l'héritage. Son mari meurt, halas, elle n'a rien du tout. Et Al-Nabi alayhi salat wa sallam porte une religion de justice qui donne des droits à la femme, des droits qu'elle ne rêvait, dont elle n'en rêvait même pas avant l'islam. L'adultère, le zina, c'était quelque chose de muntashir, de répandu chez les Arabes. À l'exception, à chaque fois, l'auteur dit à l'exception de quelques personnes nobles parmi ces Arabes qui avaient des qualités. Et parmi eux, c'était Abu Bakr al-Siddiq, quelqu'un qu'Allah avait toujours préservé. C'est comme si que Allah avait gardé cet homme-là dans un écran pour que, à la venue du prophète, alayhi salat wa salam, ce soit lui, son bras droit, et ce soit lui, son compagnon, et ce soit quelqu'un qui est irréprochable. Que personne ne pourrait dire que oui, dans le passé, toi aussi tu as fait ça. Non, Abu Bakr avait été protégé par Allah Azza wa Jal. On a tous entendu les récits des Arabes qui enterraient leur fille vivante. Malheureusement, ce n'est pas une légende urbaine, c'était une réalité. Parce que pour beaucoup d'Arabes, avoir une fille, c'était une honte. Ça nous donne une idée de la mentalité de ces personnes avant l'islam. Certains, c'est un peu choquant de le dire, même les garçons, à la naissance, il est tué. Pourquoi ? Par crainte de la famine et de la pauvreté. Et on retrouve des versets de le Coran « Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq » Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté ou de la famine, le sens du verset. C'est-à-dire que c'était des choses terribles, horribles, que les Arabes avaient l'habitude de faire. Ils avaient également des croyances totalement infondées concernant la femme en état de haïz, qu'on est en état d'impureté. Mais ils avaient des pratiques qui étaient complètement démesurées, on va dire, et également la femme qui avait perdu son mari. Donc la position de la femme dans la société chez les Arabes, c'était catastrophique, premièrement. Deuxième point noir, c'était l'esprit de clan. En arabe, on appelle ça al-qabaliyya. C'est quelque chose qu'on retrouve encore chez les Arabes, mais moins. Maintenant, le lien, avant, le lien, c'était le sang. C'est-à-dire, si il arrive quelque chose à quelqu'un de ma tribu, qu'il ait tort, qu'il ait raison, peu importe, on va faire la guerre à une autre tribu pour venger le sang, pour défendre l'honneur, et ainsi de suite. Tout était basé sur l'honneur. C'était quelque chose d'ignoble parce que ça aboutissait à des guerres sans fin. Une des guerres les plus célèbres de la péninsule arabe, elle avait lieu à Madina. Entre les deux tribus les plus connues, parce que quelqu'un a des notions, Al-Aws et Al-Khazraj. De grandes tribus arabes à Madina, les Aws et les Khazraj, qui se faisaient la guerre depuis des décennies et des décennies. Et c'est lorsqu'ils en avaient marre, ils ne savaient même pas pourquoi ils se battaient dans le sens. C'est quand ils ne savaient plus quoi faire, qu'ils avaient été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj. Hajj d'avant l'islam, bien sûr, à Makka. Il a dit que on sait que tu es quelqu'un de noble et tu es quelqu'un d'honnête, de sincère. Donne-nous des conseils. Et c'est là que le prophète alayhi salat wa salam avait une première approche avec les Aws et les Khazraj. D'accord ? Donc, l'esprit de clan, ça fait deux. Troisièmement, la soif du pouvoir. Le plus important pour eux, c'était de conquérir des terres, des chefs de tribus, ainsi de suite. Et les guerres chez les Arabes, c'était permanent, à l'exception des mois sacrés. Muharram, Rajab, le mois actuel, Dhul-Qa'da et Dhul-Hijjah, les quatre mois sacrés, là, ils arrêtaient les guerres complètement. Et ça nous permet également d'avoir un aperçu qu'ils avaient, ils donnaient de l'importance aux mois sacrés. Les mois qui étaient importants pour Allah, ben, ils donnaient de l'importance. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite fibre qui nous intéresse. Nous, croyant qu'on est le mois de Ramadan, les mois sacrés, on sait que là, franchement, il y a une réforme totale. Le moindre péché, j'abandonne. C'est-à-dire, il y avait des choses en eux, des qualités, beaucoup de défauts, mais également des qualités. On va aller un peu plus vite. La consommation d'alcool, on en a entendu parler, hein, je pense. Les Arabes buvaient... Vous savez, l'alcool le plus facile, le plus simple à fabriquer, c'est à base de dattes. Petite parenthèse, hein, quand... C'est la nouvelle tendance maintenant. Quand les gens vont au Mra, maintenant, ils achètent le ajwa frais. Avant, on ne trouvait pas ça. Mais pas celui qui est sec, celui qui est encore frais. Et il ne faut pas faire ça. Ça, il faut acheter pour manger tout de suite. Mais pas pour amener. Parce que ça fermente très rapidement. C'est un fruit qui ne se conserve pas. Alors si l'alcool le plus facile à fabriquer, c'était un nabid et ainsi de suite, à base de... Donc les Arabes consommaient. Et pour eux, c'était honorer leurs invités que de leur servir un bon vin et de l'alcool de date quand ils les rendaient visite. Donc on voit, on imagine quels sont les dégâts avec l'alcool. On voit dans notre société et dans un peu partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur leurs défauts, c'est qu'ils étaient accros à l'alcool. Mais lorsque Allah Rabbul Izza a révélé le verset définitif qui rend l'alcool haram, les sahaba, ils ont dit intahayna, ya Rabb, intahayna. Intahayna, ça veut dire quoi? Khalas. Maintenant, on arrête, ya Allah. Maintenant, promis, on arrête. C'est-à-dire, c'était un changement radical. Passer d'un peuple qui était accro à la consommation d'alcool, et quand ils reçoivent l'interdiction divine, ils arrêtent immédiatement. Et ils promettent à Allah d'arrêter. Et les hadiths décrivent qu'il y avait des fleuves de vin qui coulaient dans les ruelles de Médine. Parce qu'ils avaient, pas des bouteilles, ils avaient des tonneaux. Et ils avaient versé les tonneaux pour montrer à Allah leur sincérité et le fait qu'ils allaient arrêter complètement. C'était ça aussi, ces Arabes. Des défauts, mais quand il y avait l'ordre d'Allah, ils étaient prêts à écouter immédiatement. Et dernier point qu'on va voir, et on va conclure là-dessus, les jeux de hasard, c'était connu, les Arabes aimaient jouer, d'accord, pour de l'argent, parenthèse, hein, Allah Musta'an, quand on passe près des bars ou des ce genre de boutiques, on vend des tickets et tout, on voit pas mal de frères musulmans qui rentrent, qui achètent, et j'ai l'impression, je crains qu'on ait une époque où cet argent qui est facile, hein, parce qu'il y a des pubs, on entend partout, regardez un match de football la mi-temps, à la fin, on parle de tirage, de loto, de telle chose, telle chose. C'est tellement banalisé que je crains que s'il n'y a pas un discours permanent, un rappel de la part des savants, ben on finit peut-être par oublier que c'est quelque chose qui est grave. C'est extrêmement grave. C'est un argent qui est sale, qui est haram. Souvent, on parle de l'intérêt, c'est pas bon. Oui, mais les jeux de hasard, c'est tout aussi haram. Et pourquoi je voulais parler légèrement des jeux de hasard? Parce que ils avaient un but noble. Al-Mubarak Fawri dit que les jeux de hasard étaient également l'une des pratiques qu'ils associaient étroitement à la générosité. À la générosité, puisque les gains étaient toujours destinés à servir d'aumône. Et voilà le pire de Shaitan. Quand ils jouaient au dé, par exemple, je ne connais pas c'était quoi les jeux, hein, mais j'imagine, ils jouaient au dé ou n'importe quoi, quand ils gagnaient de l'argent, ils disaient, mais ça c'est sadaqa. Attention, ce piège de Shaitan. Parce qu'il y a des questions qui reviennent des fois. Des gens disent que, Moussa, si m'y jouais, je ne sais pas que ça s'appelle comment les jeux de nos joints, millionnaire ou loto ou PMU, si m'y gagne 2 millions, et m'y fait niat, 100 000 euros pour Masjid Montreuil, et le reste pour moi. Ça c'est piège de Shaitan. Ça c'est piège de Shaitan. Ça. Et je vous assure qu'il fait son travail. Et les gens disent que non, ben avec ça, je vais aider mes parents qui sont endettés, je vais faire de bonnes actions à Abadan. Parce que ces Arabes avaient la même approche. C'est pour ça que dans le Coran, quand on parle des jeux de hasard et tout, on parle de Wamana fi'ulinnas. Il y avait quand même un profit. Mais Wa'ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, et leur péché est plus grand que leur profit. Et là où j'attire votre attention et on conclut, c'est que, vous savez, des fois, personne n'a envie de comprendre la religion, il prend le Coran il lit la traduction en français. Et il devient autodidacte. C'est très grave, ça fait très attention. C'est-à-dire, on n'a pas, si on n'a pas fait un minimum d'études, on ne peut pas extraire des masses là à la simple lecture de la traduction des versets. Parce que ce verset dit bien qu'en parlant de l'alcool et des jeux de hasard, qu'il y a un bien. Mais c'est quoi le bien? C'est qu'il faisait ikram, c'était le point positif. Mais ensuite, Allah conclut que les péchés étaient plus graves. Et Allah l'a interdit. Donc attention à ce qu'une personne qui n'a aucune connaissance prenne un verset et interprète à sa façon en disant qu'il y a quand même un bien dedans. C'est écrit dans le Coran. Et je vous assure que de nos jours, avec les discours qui vont dans tous les sens, qui viennent de partout et qui viennent de personnes qui n'ont pas de connaissances religieuses, on finira par entendre plein de choses. Donc voilà, quel était le contexte? Un contexte, une société extrêmement complexe, avec beaucoup de péchés, beaucoup d'actes ignobles et qui caractérisaient cette société, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam va avoir une mission extrêmement complexe, extrêmement difficile, mais le changement qui va s'opérer, ce sera exceptionnel. Ces gens-là recevront de la part d'Allah l'attestation qu'Allah était satisfait d'eux, c'est-à-dire radiyallahu anhum wa radu an. Il y avait une deuxième partie, on gardera ça pour la prochaine fois, les qualités qu'ils avaient. Plein de choses mauvaises, mais des qualités exceptionnelles qui nous permettront de réaliser que être un bon croyant, être pieux, moi je me dis je suis un fundi, je suis un moulissable, je suis un chef, peu importe, mais j'ai des qualités. Mais attention, si j'ai beaucoup de connaissances, j'ai le courant dans mon cœur, j'ai l'apparence, la sunna, j'ai une belle barbe, j'ai ainsi de suite, tout ça, mais quand il s'agit de relations avec la famille, ah non, 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 ah ça, là, mais je ne supporte pas, lui. Mais sans pâté, il me dit, mon beau-frère, mais il ne pas manger un biryani côté lui. Ben, il n'y a pas de piété là-dedans, il n'y a pas de piété dans ton cœur. Parce que ces Arabes-là, malgré leurs défauts, le lien de sang, c'est important. Et quand ils ont eu l'islam, ça a renforcé les qualités qu'ils avaient. Et on verra ça la prochaine fois, qu'il y avait des fibres, des qualités énormes en eux, et ils vont les multiplier lorsqu'ils auront la ilaha illallah, qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khayran.